Alléluia. J'avais une pensée qui me trottait dans la tête tout de suite, là. Je vous la livre. Nous sommes invités à ne pas nous laisser assaillir par les terreurs, les craintes, les angoisses de nos contemporains, mais de garder les regards fixés sur le Seigneur. Jésus est vainqueur. Tout lui appartient. Voilà, comme dit Paul, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia! Il y a donc un pilote dans l'avion. Je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 6 à 9. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Oui, Seigneur, conduis-nous dans ce texte, dans cette parole que tu as prononcée et que nous en retirions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. J'aurai toute une série de textes bibliques à vous proposer en cours de route. Des textes qui vont nous conduire dans le thème de l'intercession. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et si j'ai un titre à donner à ce message, c'est « Qui sait ?» Point d'interrogation. Nos Bibles ont souvent mis comme titre à cette parabole celle du figuier stérile. Je vous propose d'en changer et de l'appeler la parabole du vigneron intercesseur. On va s'intéresser à ce que fait cet homme, car il est l'acteur principal de cette histoire. On ne connaît pas la raison de la stérilité du figuier. Un arbre ne peut pas se justifier, il ne parle pas. Donc s'il y a un dialogue, c'est entre le maître propriétaire de la vigne et son vigneron, son ouvrier employé agricole qui gère la vigne. Le maître, dit Jésus, avait planté un figuier dans sa vigne, dans l'espoir, bien entendu, de se nourrir de son fruit. Mais voilà, cet espoir a été déçu. On retrouve là, sous-jacent, le thème qui est présent dans le chapitre 5 d'Ésaïe. Il n'est pas question de figuier, là, mais de vigne. Vigne auquel le vigneron a apporté... Alors là, c'est l'image du Dieu d'Israël qui a planté un cep de choix, un bon cru, croyant, et il espérait du bon vin. Malheureusement, il n'a pas eu le fruit attendu. Au lieu de la justice, il a trouvé de l'oppression, etc. Vous connaissez ce texte que Jésus d'ailleurs reprend dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Là, il s'agit donc de la même déception, suivi de la colère. Couple. L'ordre claque comme un coup de fouet colérique. Le figuier est stérile, il occupe donc la terre inutilement, il ne sert à rien. Coupe-le. L'existence gratuite de cet arbre inutile lui est insupportable. Coupe-le. Pas très sympa ce maître qui semble mettre au-dessus de tout la rentabilité de ses entreprises, sans prendre en compte les aléas de la nature. On ne peut s'empêcher de penser à la logique de notre époque, n'est-ce pas ? Où la rentabilité est devenue le dogme intangible qui domine tout. Tout doit être rentable. Les hôpitaux, les écoles, enfin tout. C'est le critère du jugement d'un maître non moins sévère et terrible qu'on pourrait appeler la haute finance. Bon, je m'égare. Mais pas tellement quand même, hein, vous le savez. Oui, on ne peut s'empêcher de penser à la logique de notre époque. Mais aussi, il faut se rappeler que l'Évangile conteste cette logique qui fait de l'être humain une simple variable d'ajustement. Ben pour Dieu, ça ne marche pas comme ça. Pour Jésus, son message n'est pas cela. Prends patience, dit le vigneron. Laisse-le encore cette année. Le vigneron refuse de considérer la stérilité du figuier comme une fatalité. Jésus, c'est l'anti-fatalité. Veux-tu être guéri ? Dit-il en s'approchant du paralytique qui était là, à Bethesda, depuis combien de temps ? 38 ans. Fatalitas ! Non, pas pour Jésus. Il refuse le confort de la fatalité. Car effectivement, si on dit « c'est comme ça, on n'y peut rien », il peut se glisser là-dedans une certaine paresse, un certain confort. « C'est comme ça, on n'y peut rien ». Non, le vigneron refuse ce confort. Il se met au travail, il retrousse ses manches. « Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier ». Dans l'espoir, peut-être, à l'avenir, qu'il porte du fruit. Sinon, tu le couperas. Ça peut nous faire penser à ces écoliers qui, se croyant nuls, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, refusent d'ouvrir un seul livre. Je ne vais pas me prendre la tête, ça ne sert à rien, à quoi bon ? On trouve ça beaucoup aujourd'hui. Ils sont persuadés que de toute façon, ils ne vont rien comprendre. Cette attitude peut offrir un certain confort. Et c'est pourquoi on les voit plonger sur leur tablette, leur portable, se laisser porter par des jeux, des vidéos, parce que ça ne fatigue pas, ça. C'est confortable. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. N'est-ce pas un problème actuellement ? Pour tous ceux qui enseignent, ils sont confrontés à ça, j'imagine. Oui. Et pourtant, s'efforcer porte du fruit. Jésus n'a-t-il pas dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Il y a quand même quelque chose à faire. Tout nous est donné, mais tout reste à faire. Il faut se retrousser un peu les manches de temps en temps. L'attitude de ce vigneron nous dit une espérance. Peut-être, qui sait, cela va marcher à l'avenir. Quand le nécessaire aura été fait. Oui, l'Évangile est un combat contre la fatalité. Qui sait ? comme les habitants de Ninive après la prédication de Jonas. Dans le livre de Jonas, au chapitre 3, verset 9, enfin, je vous le cite de mémoire, hein. Le roi de Ninive déclare un jeûne de repentance que tout le monde, comme on dit, prenne le sac et la cendre, même les animaux domestiques. Et il dit ceci, qui sait ? Il peut revenir, il peut regretter Dieu. Il peut revenir de sa colère et nous ne serons pas perdus. Le roi de Ninive, un païen, un barbare, qui touché par la prédication justement de Jonas, prend la bonne décision, fait preuve de repentance. Cette question, qui sait, marque une possibilité inconnue et elle ouvre un espace à notre liberté de choisir. Elle révèle le mystère profond de Dieu et de chaque être humain, connu de Dieu seul, de celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il faut intercéder. Un autre texte porte la même question. Souvenez-vous, Abraham, pour Sodome. Dieu lui annonce sa décision. Je vais descendre. Je vais voir si la réalité correspond au rapport qu'on m'a fait. Entre parenthèses, c'est quand même curieux que la Bible ose parler de Dieu ainsi. Parce que nous, nous avons un Dieu tout-puissant, omniscient, il sait tout. Ben non, là, il va voir, il fait une enquête. Il va voir si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis, pendant que les envoyés descendent à Sodome, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et là, Abraham, comme ce vigneron magnifique, intercède, dit « Attends, attends, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire là ? Ferais-tu mourir le juste avec l'injuste ? S'il y a 50 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, puis excuse-moi, mais tout au bout, il va au bout, s'il y en a seulement 10. » Et Dieu lui dit « S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. » Il n'avait pas 10. Mais il a sauvé Lot à cause de l'intercession d'Abraham. Abraham devient là un intercesseur. Quelqu'un qui s'insinue, entre, qui s'introduit dans l'espace d'espoir qui reste encore. Jésus est comme ça, et il nous demande de l'imiter, nous aussi, faire de nous des intercesseurs. On ne peut enfermer personne dans un destin fatal. Ça, c'est l'idéologie du monde. C'est ce qui pourrait fonder, d'ailleurs, le renoncement à la peine de mort, à mon avis. Car qui sait ? Qui sait jamais ? Si un repentir n'est pas possible. Je sais que c'est une question délicate, mais voilà, je vous livre mon sentiment. Quelle image de Dieu avons-nous ? Celle du vengeur implacable qui, à l'image des tyrans, applique leur justice sans état d'âme. Voyez la Turquie. C'est plus de la justice, c'est de la vengeance. Avons-nous cette image de Dieu ? Coupe-le ! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Tandis que l'Écriture, Exode 34, 6, et j'ai repéré 14 autres passages dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Bon, ce qui ne justifie pas le fait d'en profiter. De toute façon, voilà. Ce ne serait pas juste. Quelle image de Dieu avons-nous ? Avons-nous de Dieu l'image qu'il nous donne de lui-même dans la personne de Jésus, son Fils, qui nous a laissé cette petite parabole, dans laquelle il se voit lui-même. Son Fils, dont il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Une empreinte. Des fois, on nous demande de laisser une empreinte de nos cartes de crédit. On ne sait jamais. Ou on prend nos empreintes digitales. Notre empreinte, c'est nous. Elles peuvent nous justifier, peuvent nous condamner. Une empreinte. Dans l'argile moue de notre humanité, Dieu a apposé par Jésus son empreinte. Et ce Jésus, il est comme ce vigneron intercesseur. Il intercède pour un figuier apparemment stérile. Il s'insinue entre le maître sévère et l'arbre sans fruit. Jésus est ce délai de grâce qui se place entre le ciel et la terre, sur la croix, entre Dieu et nous. Alléluia. Cette petite parabole du vigneron intercesseur se trouve juste après le rapport du massacre commis par Pilate, du rapport fait à Jésus par des gens de cette horreur. Et puis Jésus en rajoute une couche en disant « Et ces 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée, un fait divers ?» Pourquoi ? Pensez-vous que ces victimes étaient de plus grands coupables que tous les autres habitants de la Galilée ou que tous les autres habitants de Jérusalem pour avoir souffert de la sorte ? Voyez, là, il y avait une espèce de notion très répandue et qui est encore aujourd'hui très répandue, une sorte de justice immanente. Quand il y a une série de beaux temps, comme en ce moment, les gens parfois me disent « on va le payer ». Il y a une pas très bonne conscience là derrière. Ouais. On constate de manière très fréquente dans l'esprit de nos contemporains, cette sorte de justice immanente. Ça va nous retomber sur le nez. Eh bien, Jésus dit non. C'est renversant quand même. Hein ? Non, je vous le dis, il n'était pas plus coupable. Dieu, le Dieu qui se révèle en lui, n'est pas le gendarme du monde. Ce qu'on crut pouvoir faire au nom de Dieu, un certain George, en Irak. Et voilà où nous en sommes. Il faut savoir lire l'actualité, mes frères et sœurs, à la lumière de l'Évangile. Et l'Évangile nous dit que Dieu n'est pas le gendarme du monde. Jésus dit, il fait briller son soleil sur les justes, sur les injustes, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, ou c'est le contraire, enfin bon. C'est quand même étonnant. Nous, on aimerait parfois que Dieu intervienne un peu plus radicalement. Coupe-le ! Coupe-le ! Coupez-lui la tête, ça lui fera les pieds. Après ce rapport, Jésus dit « Non, Dieu n'est pas responsable, il n'administre pas sa justice comme Pilate, brutalement, sans appel. » Un jour, cela viendra, tout à la fin, c'est vrai. Mais quand tous les recours auront été épuisés, peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Mais Jésus ajoute quelque chose. Mais si vous ne vous repentez, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez de la même manière. Jésus voit bien où en est son peuple. Il connaît les désirs des zélotes qui ne rêvent que de vengeance, peut-être de terrorisme, sait-on jamais. Il connaît tout cela et il leur dit « Attention, il y a un piège là. Repentez-vous, changez de mentalité. Si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez tous de la même manière. » Donc pour lui, rien n'est fatal. Il faut seulement écouter son appel. Dieu n'est pas le gendarme du monde, il n'administre pas la justice comme le fait Pilate, justement, ou comme le font tous les despotes du monde. Il faut choisir, en présence du Fils de Dieu, il faut choisir. Un choix librement consenti. C'est notre liberté, il n'y a pas de fatalité, le pire n'est jamais sûr à 100%. C'est pourquoi il faut devenir un intercesseur. Le Dieu que révèle Jésus est le Dieu d'espérance. Et l'appel, cette espérance appelle l'intercession. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, ce texte affirme que Dieu cherche toujours quelqu'un qui se tienne sur la brèche et qui prie en faveur du peuple visé par une condamnation pourtant bien méritée. Dieu espère. Mais il faut que quelqu'un se tienne à la brèche. Selon Exode 32, Moïse l'avait bien compris au moment de l'épisode du veau d'or. Dieu fait une confidence à Moïse et lui dit « Je vais les anéantir, j'en ai assez, je vais les détruire. Puis avec toi, on repartira à zéro. » Et là, Moïse s'insurge. « Ah non, pas ça !» Moïse s'interpose. En rappelant à Dieu, il ose, il rappelle à Dieu que les nations vont se moquer de lui en disant « Leur Dieu n'a pas été capable de les acheminer vers la liberté, vers la possession de la terre promise. C'est pour les tuer dans le désert qu'il les a fait sortir. » Moïse dit ça à Dieu. Il dit, voilà ce qu'ils vont dire si tu agis comme ça. Et puis un peu plus loin, il va jusqu'à dire à Dieu, sinon, efface-moi de ton livre. Oh, quel intercesseur. Et Dieu change ses plans. Moïse grandit devant Dieu, comme Abraham, qui avait fait un pas en avant en intercédant pour Sodome. À l'opposé de cette attitude, il y a justement Jonas. Moi, j'aime bien le livre de Jonas. Quel humour ravageur. Lorsqu'il voit que Dieu change ses plans pour Ninive, il est furieux. Jonas semble être plus attentif à sa réputation de prophète. Je passe pour qui maintenant ? Qu'au sort des humains dont Dieu a pitié et même des animaux en grand nombre de la ville de Ninive. Jonas était plus dans la prédiction que dans la prédication. La prédiction ne laisse pas d'espace pour un changement. Voilà ce qui va arriver. Point barre. Tandis que la prédication appelle à un changement de mentalité. Et c'est ce qu'ont bien compris les habitants de Ninive et leur roi. Ils se sont dit que puisque Dieu leur envoyait un messager, puisqu'il prenait la peine de les avertir, il restait peut-être, qui sait, une toute petite ouverture, une porte étroite. Ben tiens, ça me dit quelque chose, non ? La porte étroite. Pour échapper à la mort par la repentance. C'est le message de Jésus à ces personnes venues lui raconter les massacres commis par Pilate. C'est aussi ce qui illustre la parabole du vigneron intercesseur. Alors, de quel côté penchons-nous ? Nous savons tous que notre monde est hautement condamnable et qu'il s'achemine vers le jugement. Mais comment voyons-nous les choses ? Comme une prédiction ou comme une prédication ? Je penche personnellement pour voir l'Évangile comme une prédication, un appel à la repentance, à la métanoïa en grec, changement de mentalité. Quand nous demandons, comme nous le dit Jésus, dans la prière qu'il nous a laissée, « Que ton règne vienne !» Est-ce que nous abandonnons le monde à son sort ? Pour autant. Alors, loin de là, je crois. Nous restons sur la brèche ouverte, sachant que notre Dieu espère encore la conversion des cœurs. Et nous devons prier pour cela. Il est tout puissant, il peut changer les cœurs. Il peut aller attraper un Paul sur le chemin de Damas, le pire ennemi des chrétiens. Ben, Dieu va le chercher pour en faire un serviteur de son évangile. Ah, dites donc. Et les chrétiens de l'époque, à Damas, à Jérusalem, disent « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce qui nous cache ?» Mais bon, je suis persuadé, frères et sœurs, que notre intercession pour le monde agit. Elle donne à Dieu le droit d'agir. Parce que Dieu aura toujours, mais Dieu a en face de lui un adversaire qui conteste. Il n'a pas admis sa défaite. Elle est pourtant réelle, à la croix. Il a été vaincu. Mais ça passe pas. Il n'y croit pas. Il espère lui aussi renverser la vapeur. Et il conteste à Dieu sa volonté d'intervenir. Mais Dieu peut lui opposer quelque chose. La prière de ses enfants. Vous avez tous lu ce passage où il est question de l'Antichrist, l'adversaire qui ne se dévoilera que lorsque ce qui l'empêche encore aura disparu. Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui nous permet de dire « Qui sait ?» Eh bien, c'est nous, c'est notre intercession pour le monde, pour l'Église, pour les peuples, les grands, les puissants, les responsables. Nous restons sur cette brèche ouverte. De plus, le vigneron met tout en œuvre pour optimiser la fertilité du figuier. Creuser, mettre du fumier tout autour. Qu'est-ce que cela peut signifier pour Jésus ? Qu'a-t-il donc fait pour que ce ne soit pas fatalement la mort qui triomphe ? Eh bien, il s'est livré pour nous sur la croix. C'est ça, creuser. Creuser tout autour, mettre du fumier. Peut-être l'image nous choque, mais c'est ce que je comprends. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire non seulement prier, bien sûr, mais une manière de vivre qui tout à la fois révèle quelque chose du royaume des cieux et peut-être sera vu comme une condamnation par ceux qui vivent autrement. Nous pourrions être de vivants reproches, comme l'était peut-être Abel pour Caïn, je ne sais pas. En tout cas, une manière de vivre qui, tout à la fois, tout en condamnant le monde, lui offre aussi la possibilité de la repentance. L'annonce de la fin du monde est une bonne nouvelle. Tiens, dis pas amen ? Mais oui, que ce monde-là finisse, moi ça me réjouit. Ce ne sera pas toujours les ténèbres, ce ne sera pas toujours... La maladie, la mort, les cancers, la guerre et le terrorisme et tout le Bataclan. Oh, pardon. Je n'ai pas fait exprès, mais... Ce ne sera pas fatalement toujours ça, non ? Il y a une bonne nouvelle. Le monde a une fin. Mais comment voyons-nous les choses ? Je crois que cette annonce de la fin du monde n'est pas marquée par la fatalité non plus, mais comme un avertissement, un appel. Tout reste possible. Mais osons-nous le croire ? Sinon, à quoi bon intercéder ? Dans les lettres de Paul, ses exhortations à intercéder, dans les autres apôtres aussi, abondent ces appels. 1 Timothée 2, 1 à 6, vous connaissez. Tiens, on pourrait lire quand même celui-là. 1 Timothée 2, 1 à 6. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et toutes les femmes, bien sûr. Pour les rois, les présidents, les parlements, les maires, les députés, il ne faut pas les oublier. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, celui qui s'insinue dans l'espace et qui intercède. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'est un ministère important confié aux fidèles disciples de Jésus que celui de l'intercession. Nous sommes à cet égard tous des prêtres. Personne ne nous a ordonné canoniquement. J'allais dire nous a bombardé prêtres. Non, nous le sommes. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes des prêtres. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des rois. Nous sommes ça pour Dieu dans le monde. Nous sommes ça pour le monde en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Il faut que nous apprenions vraiment à intégrer notre place dans l'histoire. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Où allons-nous ? Nous sommes établis par Dieu pour que le monde reste encore possible et accessible à Dieu. Nos prières donnent à Dieu le droit d'agir. Dans ce monde, aussi éloigné de Dieu qu'il soit, ne nous lassons pas d'intercéder, car qui sait ? Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce de ce que tu as fait de nous, malgré notre indignité, nos faiblesses. Nous te bénissons. Nous te louons pour ta croix, pour le don total. Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin une fois de plus et nous voulons te louer, t'adorer et recevoir de toi la force de la persévérance dans la prière. Oui, que nos yeux soient fixés sur toi, que notre vision soit renouvelée. Donne-nous ton regard sur le monde, sur les autres. Père, merci, car tout cela vient de toi par Jésus-Christ. Amen.